Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de notre émission sur l'islam et les musulmans en France.
Une beurette au secrétariat d'État au développement durable. Il s'agit de Tokia Saïfi. Cette députée européenne est la première femme issue de l'immigration maghrébine à entrer dans un gouvernement de la 5e République.
C'est vrai que je fais partie d'une génération qui a grandi dans ce pays, qui se sent français à part entière et qui aime son pays. C'est banaliser la présence de ces enfants d'immigration.
D'histoire. En raison de leur nombre, de leur tradition, de leur histoire et des années de présence française dans leur pays d'origine, en quelques décennies, les musulmans ont profondément transformé la société française. Mais malgré le temps qui passe, l'acquisition par la plupart d'entre eux de la nationalité française et l'accès de quelques-uns, on vient de l'entendre, aux plus hautes responsabilités, les musulmans de France ont eu plus de mal que les autres à trouver leur place dans un pays où il leur est difficile de s'intégrer. À cause de leur religion, de leur culture et d'un passé mal digéré, quand leur pays d'origine ou celui de leurs parents et grands-parents était une colonie française.
Voici l'Algérie, devenue après un siècle une des plus belles, des plus florissantes provinces françaises. Le Maroc, empire chérifien, placé en 1912 sous notre protectorat, le plus beau joyau de la France d'outre-mer. La Tunisie, royaume bellical, placé sous protectorat en 1881. Les soldats qui les premiers vinrent dans ces nouveaux pays étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. Un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Si le brave Abdelkader reconnaît en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader.
C'était une archive et une chanson des années 30, l'époque où la France était fière, on vient de l'entendre, de ses colonies musulmanes d'Afrique du Nord, sans bien comprendre à quel point la colonisation a pu bouleverser les rapports entre la France et ses colonisés et l'islam. Nous en avons parlé déjà hier, dans la première partie de cette émission. Il en est question dans un gros livre, Histoire de l'islam et des musulmans en France, publié chez Albin Michel, sous votre direction, Mohamed Harkoun, bonjour.
Bonjour.
Et puis avec la collaboration, entre autres aussi, de Jacques Frémaux. Bonjour Jacques Frémaux.
Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste justement de la colonisation, de l'islam aussi en Afrique du Nord. En quoi cette colonisation a pu avoir de l'importance pour les rapports entre la France et l'islam ?
Je crois d'abord que ce qu'il faut dire, c'est que la colonisation, pour le bien et pour le meilleur et pour le pire, a fait entrer ces pays, les pays d'Afrique du Nord, dans la modernité. Je crois que ça, c'est le premier, et ça, c'est le premier point, avec tous les chocs, avec toutes les injustices que ça a pu, bien sûr, représenter. Qu'est-ce que ça a signifié pour la France elle-même? Je crois que pendant longtemps, les Français n'ont pas vraiment mesuré que ça changeait quelque chose pour eux. Pourquoi ? Ben parce que, au fond, l'opinion française était intéressée par d'autres questions. Les Français qui connaissaient ces problèmes les connaissaient très peu. Ils en étaient assez satisfaits. Et au fond, leur idée, c'était que ces territoires avaient beaucoup gagné à la présence française, mais qu'ils n'avaient rien à apporter en particulier. Donc, on peut dire que pendant longtemps, ce rapport a été un peu à sens unique, si vous voulez. Les musulmans d'Afrique du Nord et l'ensemble des populations d'Afrique du Nord se sont tournés vers la France pour y trouver des principes politiques, pour y trouver des règles de modernité. Les Français, au contraire, n'ont pas eu l'impression qu'ils avaient grand-chose à attendre de ces populations.
Et puis alors, il faut le rappeler aussi, nous l'avons dit hier, depuis au fond la bataille de Poitiers, les rapports entre la France et l'islam se déroulent en dehors de la France, puisque il n'y a pas encore, jusqu'au début du XXe siècle, de présence musulmane en France. Mohamed Harkoun, les immigrés sont très peu nombreux, les musulmans en France sont très peu nombreux.
Absolument, jusqu'aux années 1950, ils étaient encore peu nombreux. Évidemment, il y avait déjà des travailleurs qui venaient, en particulier chez Renault. Je me souviens, dans mon enfance, je les voyais revenir pendant les vacances et raconter ce qu'ils vivaient dans l'usine et leur rapport avec les Français dans l'usine, etc. Mais c'était vraiment... Ils étaient presque invisibles. Et on les appelait les travailleurs nord-africains. Le vocabulaire est très important ici parce que après les indépendances, on va laisser tomber le terme géographique nord-africain et prendre le terme Maghreb. Et ça, c'est un acte d'affirmation identitaire contre justement la façon dont la colonisation a regardé ses colonies en effaçant toute référence qui pourrait renforcer la présence arabe et islamique dans la tête des gens. Ça, c'est une politique délibérée. C'est très important. Et c'est pour cela que, jusqu'à présent, il reste cette trace que on a arraché ces gens à ce qu'ils considèrent comme étant leur identité. C'est une grosse question. Je rapporte simplement ce qui se disait et comment les choses étaient vécues. Et justement, ce livre-là tente à expliquer beaucoup plus largement la réception, ou plutôt la non-réception, les conditions sociales et culturelles en Afrique du Nord, de la non-réception de la modernité. De la non, j'insiste. Ça, c'est-à-dire, on ne pouvait pas comprendre ce que c'était que la modernité.
En tout cas, ce sont des musulmans qui viennent pour travailler, mais aussi, comme en 1914 et 1939, pour se battre en France, aux côtés de la France, pendant les deux guerres mondiales.
Marseille, dont l'animation est encore plus grande qu'en temps normal, voit passer chaque jour d'innombrables troupes coloniales venant volontairement lutter pour leur patrie et leur liberté menacée. Un régiment de tirailleurs algériens vient de débarquer et se dirige vers la gare. Le même navire a amené des spécialistes nord-africains pour participer aux travaux agricoles.
حال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي حال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح
يا غايه celui qui part chanté par Daman El Hachi. Ces soldats, on les a entendus tout à l'heure, ces soldats qui arrivent en France, ils sont arrivés en 14, ils sont également revenus en 1939 pour se battre dans l'armée française. C'est un événement d'ailleurs qu'on a longtemps oublié jusqu'à ces derniers mois. Mais il faut rappeler qu'ils ne connaissaient absolument pas la France. Ils étaient colonisés par la France dans leur pays, mais ils ne la connaissaient pas du tout.
Sont pour la plupart d'entre eux, surtout en 1914, c'est une véritable découverte d'un pays qu'ils ignoraient totalement, dont ils avaient quelques vagues notions. Il faut dire qu'ils partagent un peu cette découverte, d'ailleurs, avec les Français d'Algérie, qui pour la plupart ne connaissent pas davantage la France. En revanche, entre les deux guerres, ce qu'on oublie quelquefois, c'est qu'il y a eu des garnisons permanentes de Maghrébins, peut-être 50 ou 60 000 quand même, qui faisaient partie de l'armée régulière, donc de l'armée professionnelle, et qui ont tenu garnison dans l'Est de la France pendant tout l'entre-deux-guerres. guerres. Et effectivement, ensuite, pendant les deux guerres, on a, en 1939, puis de nouveau en 1944, bon, des contingents plus nombreux sont arrivés.
Alors une participation considérable, on a souvent parlé dans cette émission, dans un pays, puisqu'ils repartent après la guerre, dans un pays qui compte très peu de musulmans. Ce qu'il y a de frappant, c'est que en 1926, vous en parlez dans ce livre, Mohamed Harkoun, il y a un événement important qui se produit, c'est que malgré le très faible nombre, ça représentait je crois 2% à peine du nombre des immigrants en France, de musulmans...
Et la faiblesse de la pratique religieuse.
Et la faiblesse, à ce moment-là, il y a un événement important, c'est la construction de la mosquée de Paris. Il y a une mosquée, il y en a une autre qui sera construite à Fréjus. C'est assez curieux de savoir qu'à cette époque-là, alors qu'il y a peu de musulmans, on construit deux mosquées, alors que aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus,
non,
c'est plus difficile.
On n'en a pas construit beaucoup, hein. Pratiquement, celle de Paris est restée longtemps l'unique mosquée visible. Non,
vous parlez de celle de Fréjus aussi.
Oui, mais c'est surtout celle de Paris qui a reçu une haute visibilité. Et en ce temps-là, c'était une curiosité, même pour la ville de Paris, de posséder une mosquée qui a été bâtie avec un style mauresque qu'on retrouve en Algérie, qu'on retrouve au Maroc. Et donc, en ce temps-là, c'est bien reçu parce que c'est un acte isolé et c'est un acte aussi quand même qui témoigne que la France quand même a quelques considérations pour pas tellement pour la religion mais pour la culture qui est exprimée à travers l'architecture, en particulier l'architecture de cette mosquée qui reste différente de celle des mosquées qu'on est en train de construire. Il y a un style relativement classique. Aujourd'hui, évidemment, le problème devient tout à fait différent à cause de l'échelle, mais aussi à cause d'une demande pressante des immigrés qui ont fait de l'islam une instance d'identité.
Et puis surtout la deuxième
religion en France. Une référence identitaire.
Mais alors, justement, Jacques Frémaux, cette immigration, elle arrive finalement assez tard et elle arrive paradoxalement au moment... où commence, disons, la décolonisation et surtout la guerre d'Algérie, la décolonisation en Tunisie et au Maroc. Est-ce que ce mouvement, cette guerre notamment, a beaucoup influé, a beaucoup compté aussi pour les musulmans de France?
Oui, cette guerre a beaucoup compté, mais je crois que le phénomène essentiel, en fait, c'est le phénomène démographique. C'est-à-dire que finalement, l'émigration d'Afrique du Nord augmente considérablement à partir des années 1950 parce que la natalité est très forte et qu'inversement, le développement économique et le développement industriel, le développement tertiaire sont en retard. D'où ce décalage et d'où le désir ou la nécessité de partir pour... Mais un peu le désir aussi, parce qu'il y a l'attrait aussi de la civilisation, de la culture ou de l'image de la France, d'aller donc de partir pour la métropole, enfin ce qu'on appelle encore à l'époque la métropole. Hein. Et donc est-ce que la guerre accélère ou ralentit le phénomène? Ça n'est pas certain. Et en tout cas, le grand développement de l'émigration, il est postérieur à la guerre d'Algérie.
Hein, enfin, elles veulent faire d'une certaine manière, Mohamed Harkoun.
Oui, il y a quand même la fracture à l'intérieur du peuple algérien pendant la guerre. En particulier les fameux Harkis qu'on a engagés dans
parce que eux ne partent
du
pas.
Côté français, et puis après...
Ils ne viennent pas par curiosité, ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus rester en Algérie.
Et puis il y en a d'autres aussi qui sont revenus au fur et à mesure après l'indépendance pour toutes sortes de raisons et qui ont préféré venir prendre la nationalité française que de rester en Algérie. Parce qu'il y a des tensions politiques aussi qui...
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la négociation des accords d'Évian et au moment des négociations franco-algériennes de l'indépendance, le désir des autorités algériennes indépendantes a été justement de faciliter aussi les départs et de faciliter l'émigration. Hein. Donc il y a aussi l'idée que pour l'équilibre économique, il est nécessaire que ce mouvement ait lieu.
Et donc il se poursuit après l'indépendance. Hein, je crois 410 000 maghrébins en France en 62, 620 000 en 68, 1,5 million ensuite, et une indépendance, une immigration qui pose...
Il y a un moment tournant quand Giscard d'Estaing a autorisé le regroupement familial.
En 74.
Parce que jusque-là, justement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des travailleurs essentiellement qui venaient tout seuls et qui envoyaient de l'argent à leur famille. Et donc, la population est limitée. Tandis que quand on fait le regroupement familial, alors là, ça va avoir un effet multiplicateur. Si vous avez 5 ou 6 enfants, vous venez avec la femme, l'enfant, et peut-être les tantes, les grands-mères, etc. Alors là, c'est un boom.
Et avec des difficultés d'intégration que pose cette immigration depuis plus de 40 ans.
Je suis Tunisien. Et quand je suis parti de là-bas, j'avais déjà mon bac. Puis j'avais cru que la France, quoi, c'était le paradis, quoi. Puis quand je suis arrivé là, ben, j'ai vu la vérité en face, quoi. Nous sommes méprisés, voilà, c'est ça. On passe 8 heures à l'usine et puis on rentre là, bon, on passe la nuit au foyer, la journée au foyer. Mais quand on va, même si on a de l'argent et puis on arrive à manger dans des bons restaurants, eh bien on n'est pas considéré. Même si on paye la même somme qu'un Français ou qu'un Allemand ou qu'un Américain, eh ben je sais pas, on est toujours spécial, quoi. On est toujours des Arabes. Les gens, eh ben, ils parlent devant moi des bounouls, quoi. Ils les appellent bounouls ou des ratons.
Ça existe encore, ça.
Oui, ça existe.
Que tu sois de Arabes.
Qu'on a entendu juste avant Djourdjoura, là, qu'on écoute, ça vous a impressionné, Mohamed Harkoun, et c'est un témoignage qu'aurait pu faire beaucoup d'immigrants à cette époque-là.
Mais on entend que ça aujourd'hui. Ouais. On n'entend que ça.
Mais comment expliquer
ce sentiment d'être méprisé, d'être mis à l'écart, l'absence de communication réelle et spontanée, ça pèse encore lourdement.
Mais comment expliquer justement que cette intégration des Maghrébins musulmans pour l'immense majorité d'entre eux se fasse plus difficilement que d'autres communautés, que l'immigration d'autres communautés venues en France?
Plusieurs facteurs, mais je n'ai pas le temps de les énumérer. D'abord, il y a la démographie dont on vient de
parler.
Le nombre,
oui.
Et une démographie de jeunes. C'est-à-dire, ce sont des gens nés dans les années 60, 70, 80, et plus on approche de 80, plus ça augmente. Donc c'est une population jeune. Et puis cette population a connu les premières années de l'indépendance et a connu les effets d'une politique de l'éducation qui ne répondait absolument pas à une société qui était bouleversée par la démographie, mais aussi par l'idéologie. L'idéologie identitaire ou identitariste qui a dominé la politique dans les trois pays maghrébins, mais aussi arabes en général. Et ça, c'est un facteur extrêmement
l'identité, revenons au cœur du sujet, qui est l'islam. Est-ce que l'islam lui-même n'est pas, la pratique de l'islam n'a pas rendu plus difficile cette intégration, Jacques Frémaux?
Écoutez, ça me paraît, par certains côtés, oui, mais je crois qu'on a tendance quand même à surestimer ce facteur. Il a eu sans doute des effets un peu négatifs dans la mesure où il est apparu aux populations françaises qui ignoraient tout de l'islam et de la religion musulmane comme un facteur très profond de différenciation. Et ça, je pense que c'est tout à fait évident. En ce qui concerne ensuite le comportement eux-mêmes des musulmans et leur difficulté à s'intégrer ou à s'adapter à la société française, je pense pas qu'il ait eu énormément d'importance. Il y a un troisième élément dont il faut tenir compte et qui est peut-être plus récent, c'est l'action d'un certain nombre de pays, disons, islamistes, pour essayer d'agir par une propagande sur un certain nombre de ces musulmans aussi. Ça, c'est le troisième caractère. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai les choses.
Je voudrais ajouter une donnée extrêmement importante, c'est que ces jeunes immigrés ne connaissent rien, ou presque, de l'histoire de l'islam, tel que, par exemple, on en parle dans ce livre, et ne connaissaient même pas les conditions dans lesquelles l'islam comme religion doit être vécu et abordé. Ça, c'est un trou énorme. Donc, quand on dit que ce sont des musulmans, ils apportent l'islam, non, ils apportent beaucoup d'ignorance à propos de l'islam. Et dans une société qui elle-même ignore tout de l'islam, alors vous voyez ce que ça donne, c'est ce que nous observons quotidiennement aujourd'hui.
Ça donne même des pratiques qui ne sont pas, je crois, imposées par l'islam et qui depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, suscitent beaucoup de polémiques. France Inter, Patrice Bertin, le 4 octobre 1989.
Étonnant conflit dans un collège de Creil, dans l'Oise. Fatima, Leïla et Samira, deux élèves marocaines et une tunisienne, ne sont plus admises au cours parce qu'elles portent le tchador, le voile islamique.
Perdu dans la banlieue de Creil, coincé entre des blocs de HLM, le collège Gabriel Avez. Ici, 876 élèves étudient, dont 500 musulmans. Il y a 15 jours, la petite Samira, 14 ans, est sortie de sa classe en pleurs, renvoyée pour avoir porté le foulard traditionnel. Depuis, Samira reste à la maison. Son père refuse qu'elle reprenne les cours.
Je crois qu'il n'y a pas une loi qui interdit un port de foulard. Chacun est libre quand même de porter ce qu'il veut. C'est un signe de respect envers la fille. C'est pour cacher ses cheveux et ni plus ni moins.
Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement.
Alors c'était en 1989 une affaire dont on a beaucoup parlé, qui continue d'ailleurs de se poser, Mohamed Harkoud. À quoi correspond justement cette pratique religieuse? Peut-être on voit beaucoup plus de voiles qu'on en voyait au début de l'immigration. Alors, vous, maghrébine.
Oui. Dans ce qu'on vient d'entendre, nous avons deux postures idéologiques qui s'affrontent. Je souligne le mot idéologique, en ce sens que ni les uns ni les autres ne savent exactement de quoi il s'agit. Le voile est présenté d'emblée comme une question religieuse, et tout le monde est renvoyé à l'interprétation du Coran pour dire si le Coran l'interdit ou l'autorise, ou etc. C'est un débat immense que ni l'un ni l'autre des deux parties ne peuvent aborder.
Pourquoi ?
Mais parce que je répète que il n'y a pas de connaissance de la théologie musulmane n'existe pas dans la période actuelle. Il n'y a pas de théologien. Il n'y a pas de connaissance du droit musulman. Parce qu'il faut des exégètes nouveaux du texte, du texte coranique, comme cela se fait chez les chrétiens. Et ça n'existe pas. Mais alors, on discute sur quoi? On discute sur des ignorances et des volontés qui veulent s'exclure l'une l'autre, et qui ne se reconnaissent pas l'une l'autre, et ça continue comme ça.
Est-ce qu'il n'y a pas l'influence aussi du fondamentalisme musulman, cette fois-ci dans le reste du monde? Est-ce que la communauté musulmane n'est pas très attentive, évidemment, à ce qui se passe au Proche-Orient, à ce qui se passe aussi avec un fondamentalisme qui peut aller jusqu'au terrorisme?
Oui, mais ce fondamentalisme est généré par ce dont je suis en train de parler, sur la base également des ignorances. Il n'y a pas que ces immigrés-là qui vivent. Dans les pays musulmans eux-mêmes, après les indépendances, il y a un enseignement de la religion, de l'islam, qui n'est pas du tout respectable en termes d'histoire, justement, de connaissances exégétiques des textes, etc. Et donc, on est en pleine idéologie.
Est-ce qu'inversement, la présence d'un islam très important, encore une fois, la deuxième religion de France, aujourd'hui, n'influe pas sur la politique française, que ce soit la politique étrangère de la France ou sa politique intérieure, Jacques Frémaux?
Actuellement, écoutez, je n'ai pas l'impression, hein, parce que j'étudie récemment avec des étudiants de mon cours l'intervention britannique en Égypte en 1882, et la position du gouvernement français lorsque les Britanniques occupent l'Égypte en 1882, c'est de dire on refuse une opération militaire, mais on préfère une négociation, une médiation internationale. Hein, et de préférence en s'entendant avec les pays de la région, hein, et donc on refuse la force et l'usage de la force, et on se désolidarise de la Grande-Bretagne. Bon, remplacer la Grande-Bretagne par les États-Unis.
La politique arabe de la France ou la politique vis-à-vis des pays du Proche-Orient, c'est pas influencé par la présence de l'islam en France?
Actuellement, je crois pas, parce que finalement, elle a été définie par le général de Gaulle en 1960, dans les années 60, à une période qui était quand même très différente, et apparemment, tous les gouvernements français y restent assez fidèles. Donc, j'ai pas l'impression de ce point de vue-là qu'il y ait beaucoup de changements.
En tout cas, il y a aussi quand même, malgré tout, une remise en cause peut-être même des institutions françaises. On se souvient que, faute de mosquées, et comme l'État français n'a pas le droit, en vertu de la loi de 1905, de subventionner les églises, eh bien, on a pensé, puisque les municipalités ne le font pas toujours non plus, on a pensé, à ce moment-là, c'est Nicolas Sarkozy qui avait envisagé de retoiletter la loi de 1905 contre l'avis de Jacques Chirac, qui lui plaidait pour le maintien de la laïcité. C'était en 2004.
Liberté religieuse que notre pays respecte et protège ne saurait être détournée. Elle ne saurait remettre en cause la règle commune. Elle ne saurait porter atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est cet équilibre subtil, précieux et fragile, construit patiemment depuis des décennies, qu'assure le respect du principe de laïcité. Et ce principe est une chance pour la France, c'est pourquoi il n'est pas négociable.
Je ne veux pas qu'on ait dans les communes des lieux de prière qui soient intégralement financés par l'étranger. Eh bien, si on ne veut pas de ça, il faut qu'on réfléchisse à des possibilités sans changer quoi que ce soit la loi de 1905 qui nous permettent de contrôler des lieux de culte. Voilà comment on pourra avoir un islam de France et non pas un islam en France.
Vous avez remarqué, Mohamed Harkoun, que Nicolas Sarkozy emploie le mot « islam de France » qu'il préfère à « islam en France ». Vous, le titre du livre que vous avez dirigé, c'est « L'islam en France ».
Mais parce que c'est historien, c'est l'histoire. Et l'histoire, jusqu'à présent, l'islam n'est pas du tout de France. Si on parlera, je l'espère, j'en suis convaincu même, on va parler d'un islam de France qui est en train d'émerger.
Alors, il émerge
pour la première fois. Mais jusqu'ici, les données de l'histoire ne permettent pas de parler d'un islam de France jusqu'à au jour où nous parlons.
Alors, peut-être faites-vous allusion au fait que pendant des années, il n'y a pas eu d'institution représentative de l'ensemble des musulmans de France. Il y en avait plusieurs. Et jusqu'à la création, donc en 2002, du Conseil français du culte musulman, qui est en fait un rassemblement de plusieurs. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'était nécessaire et est-ce que c'est suffisant?
Tel qu'il est conçu et tel que institutionnellement il est obligé de fonctionner, personnellement je considère que ça ne peut pas marcher. Parce que je dis une phrase seulement, puisqu'on n'a pas le temps, l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. Je n'ai pas le temps de commenter la formule, mais je vous assure qu'elle dit beaucoup de choses et elle dit tout sur le problème.
Jacques Frémaux?
Non, ben, je suis assez de cet avis aussi, et je crois que en France, on a beaucoup trop tendance à faire confiance à s'en remettre à la loi ou à imposer un certain nombre de règles lorsque des problèmes apparaissent.
Il y a ce qu'on appelle la discrimination positive, qui consiste à imposer la présence justement de gens de musulmans, entre autres, dans des postes importants, parce qu'elle n'est pas suffisante, dit-on.
Oui, et là aussi, je crois que l'idée de susciter effectivement davantage de vocations ou de candidatures musulmanes me paraît excellente. L'idée de l'imposer me paraît très discutable aussi.
Oui, tout à fait.
Elle encourage le communautarisme.
Le communautarisme.
Et le repli sur soi.
Oui, ça n'est pas sain. Oui. Ça n'est pas sain.
En tout cas, ce qui est sain, Mohamed Harkoun et Jacques Frémaux, c'est de lire ce livre, parce que, à mon avis, il est d'une grande utilité. Il permet de mieux comprendre, justement, par l'histoire, les rapports très complexes entre l'islam et la France. Ce livre, c'est vraiment un livre des références, déjà. Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Tout de suite, la suite de notre jeu qui, pendant toute la semaine, vous permet, vous le savez, de gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel. Éphéméris, 1000 ans d'histoire, accompagné d'un CD-ROM comportant 45 000 dates. Il vous suffit de répondre à la question du jour. Le 27 octobre 1968, un événement provoque un scandale aux Jeux Olympiques de Mexico. De quoi s'agit-il? 1. Le 200 mètres est truqué, laissant gagner un athlète blanc. 2. Deux athlètes noirs baissent la tête durant l'hymne américain et lèvent le poing. 3. Une prise d'otage revendiquée par l'organisation des Black Panthers et qui survient en plein Jeux Olympiques. Alors pour jouer, pour gagner, vous pouvez appeler le 32-30, 34 centimes la minute et donner votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.